On n'a pas le temps pour l'intro, les Américains chient sur les salles de cinéma, on a des comptes à régler.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un sondage récent sur les pratiques cinéphiles américaines met en avant les plateformes de streaming au détriment de la salle de cinéma. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce comportement ? Je vous explique tout ça. À côté de ça, le bistrot d'Andrew rouvre ses portes et accueille 4 nouvelles personnes venues nous présenter un long métrage de leur choix, de quoi remplir notre semaine de recos filmiques sympatoches. Il y aura aussi la question du public et je vais reparler de Godzilla. Ouais, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas parlé du lézard géant. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux. J'en parlais il y a quelques émissions concernant un possible changement d'horaire de l'émission, en disant que j'allais faire des tests et tout. J'ai entendu les gens qui disaient « putain, 14h, c'est tard, etc. » Du coup, j'ai trouvé une sorte d'entre-deux et on va faire un test de changement d'horaire d'émission à partir de mercredi. Pitié, me détestez pas dans les commentaires, vraiment, c'est un test. On reviendra à la normale si jamais on se rend compte que c'est différent. On va voir comment ça se passe. Le but, c'est que l'émission fasse plus de vues à son lancement pour que l'algorithme YouTube la mette davantage en avant et que l'émission puisse continuer à grossir. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de faire grossir l'émission de la sorte ? Pour les gens qui écoutent l'émission en version audio sur Spotify, sur iTunes, rien ne change. L'émission sortira, comme d'habitude, à 7h du matin. On ne change pas ça. Ce qui va changer par contre, et ce pour plusieurs émissions test, c'est l'heure de la sortie vidéo de l'émission. On va essayer de sortir l'émission à midi au lieu de 7h. J'ai entendu que 14h c'était trop tard et il y a des gens qui ont dit j'aimerais bien que ce soit midi pour pouvoir le regarder pendant la pause bouffe. Du coup, le pire podcast cinéma reste en audio à 7h du matin mais passe en vidéo à midi au lieu de 7h. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais changer d'avis très rapidement en me disant ça change absolument rien, on arrête ? On va voir, je n'en sais rien du tout. Mais on peut pas savoir sans essayer, donc laissez-moi faire ce petit test, ce pour peut-être qu'une seule émission, 2 ou 3, on verra combien de temps ça dure. Et on se fera un bilan au bout d'un moment et je vous dirai regardez les chiffres quand même, ils parlent d'eux-mêmes. On verra à ce moment-là. Ce qui ne change pas par contre, c'est que le pire podcast cinéma, c'est tous les jours, le lundi, le mercredi et le vendredi, aujourd'hui à 7h du matin, et on va un petit peu changer d'horaire du coup pour les jours à venir. Bref, c'est parti pour les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Est-ce que vous préférez voir des films au cinéma ou à la maison ? Un bon gros débat sans fin et surtout une bonne grosse question de merde pour commencer cette émission. Parce qu'on va essayer de sortir du débat du pour ou contre. Vous savez quoi ? J'ai mon avis là-dessus, vous connaissez parfaitement mon avis là-dessus. On va essayer de pas en faire le sujet principal. Ça va être dur, mais on va essayer. J'ai dit on va essayer. Parce que si j'en parle aujourd'hui, c'est à cause d'un sondage qui vient de sortir aux États-Unis et qui met en avant les pratiques des Américains concernant le cinéma et le streaming. Un sondage qu'on m'a beaucoup envoyé en me disant « c'est terrible, oh mon dieu, c'est incroyable !» On va essayer de se calmer 2 secondes. Le sondage vient de l'Institut Harris X et a été relayé par le site IndieWire. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Qu'est-ce qui nous dit de beau ce sondage ? Eh bien, il indique, je cite IndieWire, que seulement 34% des Américains adultes préfèrent regarder des films au cinéma, soit donc 2/3 des Américains qui préfèrent attendre que le film sorte en streaming pour le regarder à la maison. Voilà, ça c'est le sondage. C'est le gros chiffre qui a été relayé partout, 1/3 des Américains préfèrent le cinéma, les autres préfèrent rester à la maison. C'est le gros truc qui fait trembler toute la communauté des cinéphilos. Mais si vous suivez l'émission depuis un moment, vous savez que citer un sondage, ne pas le remettre en contexte et en faire une vérité générale génératrice de buzz, ce n'est pas de l'information. Non, c'est un tweet d'influenceurs cinéma. Ce sondage en soi, il veut pas dire grand chose. Vraiment, il décrit une pratique, un avis d'un panel sondé pseudo-représentatif, mais il veut pas dire grand chose sur les pratiques littérales des Américains concernant le cinéma. Pour saisir davantage ce qui se passe, il faut se plonger un peu plus en détail dans le sondage, qui comportait d'ailleurs des questions comme « Combien de films par semaine vous regardez au cinéma ou à la maison ?» Et la réponse qui est revenue en majorité, c'est « 2 films ou plus par semaine à la maison contre quelques fois dans l'année au cinéma. » Ce qui est logique, en fait. C'est comme si je vous demandais combien de morceaux vous écoutez par an sur Spotify et combien de fois vous allez à des concerts. La place de concert est évidemment plus chère, mais suivez un petit peu mon analogie. Ce que je veux dire, c'est que c'est logique dans un pays comme les États-Unis où les cartes cinéma sont pas illimitées, où faut se déplacer énormément pour pouvoir aller au cinéma, que de préférer rester à la maison, regarder un truc dans un catalogue à 15 balles par mois, plutôt que de payer 15 balles le film et d'être obligé de sortir, d'aller loin pour pouvoir le voir. Personne tombe de sa chaise. Ils expliquent ensuite dans le sondage les raisons qui poussent à aller au cinéma, du côté des gens qui justement sont le tiers de gens qui préfèrent aller voir des films au ciné. Et ben le truc qui arrive en tête à 59%, c'est l'expérience d'un film sur un écran géant, suivi à 47% par la qualité du système son, et enfin à 39% échapper aux distractions de la maison. Des raisons que j'ai évoquées mille fois dans le podcast, je veux dire, personne a une config semblable à une salle de cinéma chez lui. Si vous dites le contraire, vous êtes soit un gros bourgeois, soit un gros menteur. De même, pour moi qui ai des problèmes d'attention, c'est quand même le plus important, c'est-à-dire que à la maison, je risque de checker mon téléphone, de parler à quelqu'un d'autre, de mettre sur pause pour faire un autre truc, et donc de sortir du long métrage, de perdre ce qui me lie à lui. Les films au cinéma créent une situation où il est quasi impossible de s'échapper, où tu es obligé de rentrer en symbiose avec ce que le film te propose sur son écran. Et si tant est que le film soit réussi, ben ça crée un souvenir, ça crée une expérience, quelque chose qu'il est difficile à reproduire à la maison. Il y a d'autres raisons citées, hein, avec des plus petits pourcentages, les sièges 37%, les boissons 32%, vous pouvez pas acheter des canettes de coca à la maison, c'est quoi ce délire? Le film seulement disponible au cinéma 30%, les technologies type 3D IMAX 30%. Passons plutôt à l'inverse. Passons à les raisons qui poussent les gens à rester à la maison. Bah oui, c'est quand même le pourcentage qui domine le sondage. Pourquoi est-il aussi présent? Alors la première raison qui est invoquée pour rester à la maison à 53%, c'est le prix du ticket de cinéma. Ah, le débat du cinéma trop cher, nous y voilà. Il est vrai que si on regarde le prix du ticket de cinéma aux États-Unis, il a doublé en 20 ans. Il est passé de 5,60$ en 2001 à 10$ à l'orée des années 2020. Ouais, ça a doublé. Mais étrangement, ça a pas baissé les entrées. Bon, faut compter l'inflation dans la balance et tout, mais si on parle des films américains, en 2000, le nombre de tickets de cinéma vendus s'élevait à 1,3 milliard. Et en comparaison, en 2018, le nombre de tickets vendus s'élevait à 1,3 milliard. Ouais, ça a doublé de prix, mais on a toujours vendu autant de tickets. Il y a eu un vrai effondrement post-Covid, hein, soyons très honnêtes, sur l'année 2023, on est à 828 millions de tickets, ce qui est plus qu'en 2022 et le double de 2021. Mais ça reste 500 millions de moins qu'en 2018. Le confinement a rendu la maison plus agréable. Une partie des gens sont devenus plus casaniers. Et c'est d'ailleurs une des raisons invoquées par le sondage. 40% des gens disent préférer le confort de la maison à celui du cinéma. Ça fait quand même un paquet de gens qui ont des salles de cinéma à la maison. Pas moi perso. Hein. Sauf qu'on réalise ensuite dans les raisons invoquées une véritable déconnexion du public sondé. C'est-à-dire qu'il y a littéralement 24% qui indiquent juste s'en foutre du cinéma. Voilà, tout simplement. Des gens qui n'étaient pas convaincus avant et qui donc le sont pas plus aujourd'hui, rien n'a changé en somme. À peu près autant de personnes ont cité aussi le Covid comme raison de rester à la maison et 22% ont cité le fait de pas pouvoir mettre le film en pause pour faire pipi. Oui, c'est une vraie raison. Cadeau si vous intéresse, téléchargez l'application Runpee, R-U-N-P-E-E. C'est une application qui te dit au cinéma quand est-ce que tu peux aller faire pipi dans un film. C'est-à-dire que ça sonde les films, ça te dit ok, telle scène est moins intéressante, je peux te la résumer, là t'as 3 minutes pour aller pisser, tu peux lancer l'application pendant que tu lances le film et du coup ça te met une petite alerte en mode si tu veux pisser, c'est maintenant. C'est un cadeau pour tous les grands pisseurs. Voilà. Après bon, si tu t'empêches de faire certaines sorties par peur de pipi impromptu, tu laisses quand même vachement ta vessie guider ta vie, non? Donc si je résume le sondage grossièrement, les gens vont moins au cinéma parce que c'est trop cher, on préfère la maison et on en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Trop cher déjà, je vous ai montré que même avec l'effet post-Covid, le prix du ticket de cinéma a pas particulièrement fait baisser le nombre d'entrées. Les gens qui se plaignent du prix du ticket de cinéma étaient les mêmes qui s'en plaignaient il y a déjà 10 ans. Et je sais que dans les commentaires, je vais avoir des gens qui vont dire oh « Oui, mais moi je trouve ça trop cher le cinéma. » J'ai sorti deux grosses vidéos sur ma chaîne hier. Maintenant un peu plus d'un an, si jamais ça vous intéresse, sur la notion du ticket de cinéma trop cher, c'est un faux problème et c'est surtout une excuse pour des gens qui de toute manière n'y seraient pas allés. Oh, le nombre de commentaires de merde que je vais avoir encore, oh là là! Par contre, est-ce que les plateformes de streaming ont participé à dévaluer dans l'esprit des gens la valeur d'un long métrage en soi en proposant un catalogue à un prix d'un ticket de cinéma? Oui. Je pense que les plateformes comme Netflix, etc. ont fait beaucoup de mal à la notion même de ce qu'est un film et de ce qu'il représente. Netflix a juste oublié que 2/3 de son catalogue, c'est des films qui se sont fait leur réputation en sortant au cinéma. Bah oui. Les deux autres raisons qui sont invoquées, le fait que on préfère le confort à la maison et on en a rien à foutre, c'est des raisons que je peux pas combattre. C'est des gens qui ont choisi ce truc-là, et vous pensez comme ça. Je ne pourrais rien faire pour vous convaincre de changer d'avis. Je peux pas m'empêcher quand même de rappeler que ce sondage est très américain. C'est-à-dire que vous savez quelle est la salle de cinéma qui fait le plus d'entrées au monde à l'année? C'est une salle de cinéma française. Oui, c'est l'UGC Ciné-Cité Les Halles à Paris. Le cinéma qui fait le plus de tickets vendus par an. Cocorico la France, putain, on baisse tout le monde. Derrière ce sondage pseudo-alarmant, j'ai surtout juste l'impression que les gens qui étaient désintéressés avant, sont toujours désintéressés aujourd'hui. Y a pas grand-chose qui a changé. Et moi, de mon côté, mon rôle, c'est de me battre pour vous rappeler que vous pouvez regarder autant de films que vous voulez à la maison. Ce qui fait exister les films, c'est la salle de cinéma. Je veux dire, de combien de sorties Netflix vous vous rappelez cette année de sorties vraiment marquantes qui ont marqué l'année 2023? Je sais pas, perso, moi j'en vois deux. Par contre, si tu me demandes combien de sorties au cinéma je me souviens, Là, je vais manquer de doigts. Mondialement, le cinéma reprend des couleurs. Des films se plantent, c'est sûr, mais je veux dire, des succès comme Dune 2 ou Bob Marley récemment font exploser les box-office internationaux. Maintenant, ça tient qu'à vous. Ça tient qu'à vous de vous bouger le cul et d'aller voir des trucs. Et des super choses au cinéma. Ce serait dommage de les rater. C'est lundi et ça fait un moment que je vous l'avais pas dit, le bistrot d'Andrew rouvre ses portes. On a tourné de nouvelles émissions qui vont ponctuer vos semaines à venir et on vous a accueilli vous, oui vous, pour nous parler de cinéma. 4 personnes, 4 films, une discussion au bistrot et un Andrew survolté pour animer les débats. Vous connaissez le principe, Andrew, c'est à toi.
C'est une excellente question.
Qu'est-ce que vous voulez comme remontant ?
Je vous fais confiance.
Bon.
Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme chaque semaine, on vous a fait venir à l'émission pour nous parler d'un film. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de...
Maya.
Elias.
Bonjour encore une fois. Bienvenue dans l'émission.
Power.
Et Kali.
Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Animatrice 2D.
Nice. Et toi ?
Toujours étudiant.
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je suis employée dans un cinéma dans les Laurentides.
Trop bien.
Et je bosse dans la QA, dans le jeu vidéo.
Donc, bah, vous êtes venu pour me parler d'un film que vous aimez en particulier ou l'envie de partager un film avec nous. Donc, du coup, on va commencer par Kali.
Oui.
Apparemment, c'est Guava Island.
Guava Island, ouais.
Allez, vas-y, bah, parle-nous-en. Pourquoi t'as décidé de parler de ce film-là ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Et le vrai prétexte, c'est parce que Guava Island est un film réalisé par Hiro Murai et Donald Glover, qui sont un binôme que j'adore. Parce que Donald Glover, c'est aussi le chanteur Childish Gambino. Je suis fan de sa musique et de ses productions audiovisuelles. Et Guava Island, c'est un genre de film hybride, à mi-chemin entre le court-métrage, la comédie musicale et plein d'autres choses. Et j'ai adoré l'expérience, en fait, au-delà de la qualité filmique. Il y a des récurrences de leurs travaux qui est présente dans le film et j'adore ça. La photographie est toujours nickel. Il y a un truc avec Hiro Murai, c'est que dès qu'il filme un truc, on peut mettre pause à n'importe quel instant et c'est un plan photo magnifique. Donald Glover, il est totalement fou dans son écriture. Là, pour le coup, le film a été coécrit avec son frère, Stephen Glover. Ben, j'ai adoré le concept du film. C'est sur une île paradisiaque. Beaucoup de gens y vivent, mais ne prennent plus le temps de voir que leur île est paradisiaque. Et le personnage de Donald Glover s'appelle Denis. C'est un peu un artiste un peu fou qui joue de la guitare partout pendant que tout le monde bosse. Et il décide d'organiser un festival pour que les gens prennent conscience qu'ils vivent dans un endroit merveilleux. Sauf que sur l'île, il y a un dictateur qui n'est pas très fan de ça. Et il se dit, si tu fais ton festival, demain, les gens ne viendront pas bosser. Et du coup, c'est un peu ça le pitch de base de l'histoire. Va-t-il faire son festival ou pas ? Et en plus, sa copine, c'est Rihanna. Et des fois, je suis un peu amoureux d'elle.
Il n'a pas parlé qu'il y a Rihanna dans le film. Quand ouais. Même,
il y a aussi, j'ai plus le nom de l'actrice, mais celle qui joue Black Panther dans le 2. Et il y a aussi, j'ai pas son nom, il a un nom que j'ai du mal à retenir. C'est le seul noir riche de Game of Thrones qui a fini dans un coffre.
J'ai pas vu Game of Thrones, je pourrais pas t'aider.
Ouais. Le respect est mort.
Il joue exactement le dictateur, mais j'ai adoré les musiques du film parce qu'il a réussi à les inclure de manière très organique. C'est vraiment un film feel good à regarder le dimanche, détente, et moi je suis très fan de ce genre de contenu. Et Hiro Murai et Donald Glover, je vous invite à regarder ce qu'ils font parce que c'est assez incroyable.
C'est régulier qu'ils fassent des trucs ensemble ?
Ouais, okay. En fait je pense qu'ils ont signé un contrat avec Prime Video pour faire plusieurs contenus et ils ont fait la série Atlanta, bon ça c'était avant, mais qui est ma série préférée de tous les temps.
C'est plutôt un film musical, tu dirais, ou pas ?
Il y a de la musique, mais je trouve que la musique ne prend pas le dessus sur le scénario. C'est vraiment de manière très organique, c'est très fluide dans la manière, dans le déroulement du film. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est pas la comédie musicale qui, dès le début, on t'impose la grosse scène de musique, ou c'est vraiment lors d'une conversation. Par exemple, il y a un type qui dit « Ouais, moi j'en ai marre de cette île, je vais aller vivre aux États-Unis en Amérique. » Et l'autre, il rigole et il chante « This is America », sa chanson.
Parce que c'est assez rare de nos jours d'avoir des films de moins d'une heure, enfin...
Bah ouais, hein.
Moi, de souvenir, celui qui fait généralement, bah, actuellement, c'est Quentin Dupieux.
Il y a eu un film qui était intéressant il n'y a pas longtemps, mais je crois que Victor, il n'aime pas du tout.
Alors, bonjour, c'est Victor. On m'a installé une caméra en régie pour que je puisse dire des choses. Quentin Dupieux est un génie et Dali est déjà un des meilleurs films de l'année. Voilà, je rends la parole à l'émission.
Ah, c'est fait.
Voilà.
Est-ce que vous êtes plus la team, justement, des formats de films qui sont courts ou plutôt des films qui sont plus longs ?
Moi, ça dépend... Désolé de te couper.
Non, vas-y.
Moi, ça dépend vraiment du film. Parce que Seigneur des Anneaux, je peux le regarder en boucle. Alors que des films beaucoup plus courts, j'ai du mal. Ça dépend vraiment de ce que le film me propose.
Je pense que ça dépend totalement du scénario. Il y a des films de 1h30 qui sont extrêmement forts. Et autant, comme tu l'avais expliqué, t'as des films de 2h40, 3h. Et tu reparlais du Seigneur des Anneaux. Oui, ok, la version dure 4h, mais c'est 4h de bonheur absolu, ouais. Quoi. Mais il faut trouver un juste milieu.
J'aime les films qui sont plus denses, qui ont... beaucoup de contenu puis qui deviennent peut-être, je sais pas c'est quoi le mot en français, overwhelming. Mais pour mon emploi du temps préfère les films plus courts. mais c'est vrai que souvent, c'est j'apprécie de m'immerser dans de quoi qui dure plusieurs heures.
De prendre le temps d'installer le scénario et le personnage.
Je préfère les séries pour ça.
Donc on va passer à toi, Power. Tu vas nous parler d'un film dont j'arrive pas à dire le nom correctement, donc tu vas pouvoir le faire toi.
Ça se prononce The End of Evangelion. C'est un film, c'est une compilation de deux moyens-métrages. The End of Evangelion, c'est basé sur la série Neon Genesis Evangelion qui fait 26 épisodes. Le film vient remplacer les deux derniers épisodes de la série suite à beaucoup de critiques en lien avec la fin qui était vue comme étant insatisfaisante par beaucoup de fans. Beaucoup de gens étaient fâchés. Puis, oui.
Désolé, faut avoir vu la série pour voir le film.
Je le recommande fortement.
D'accord.
Je le recommande fortement parce que c'est vraiment une continuation directe. Ça vient directement remplacer les deux derniers épisodes de Neon Genesis Evangelion.
Donc, je vois que tu portes un t-shirt de...
Oui, ben, tu vois, au risque de ruiner ma crédibilité, je suis venue en mode fangirl. J'aime un peu Neon Genesis Evangelion. C'est un peu je dirais, l'animé, puis plus profondément, The End of Evangelion. C'est comme un peu le film de ma vie. Mais c'est l'histoire de Hikari Shinji, qui est un adolescent de 14 ans qui vit dans Tokyo 3, qui est un Tokyo ravagé, dans le fond, par une guerre avec des ennemis qui viennent de l'espace, qui s'appellent les anges, puis qui essayent de détruire l'humanité. Son père, Hikari Gendo, le président d'une association militaire qui s'appelle NERV, va avoir recours à ses services pour piloter des gros robots géants.
Des métals.
Des mécas.
Ce sont des Gundam.
On adore les mécas.
Oui, oui. qui s'appellent les Evangelion, pour combattre les anges, dans le fond.
OK, ça, donc la série s'appelle comme ça à cause, c'est le nom des robots...
Oui, il y a aussi une connotation religieuse qui est très présente dans la série.
Ben ouais,
Neon Genesis, c'était
des anges.
Ouais, déjà, de vous combattre des anges.
Ouais, ouais. Le prémisse de la série, dans le fond, c'était de créer une nouvelle genèse. J'aime le film, surtout pour ce qu'il apporte à cette ère-là de l'animation japonaise, puis surtout de ce que ça raconte sur son réalisateur, puis surtout sur la production du film. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, le film a été fait en réponse à des critiques très négatives sur la fin. Mm-hmm. On parle de menaces de mort, on parle de boycott, parce que Neon Genesis Evangelion était extrêmement populaire à l'époque, même en termes de séries d'animation japonaise. Il y a personne qui a été heureux de travailler sur ce film-là. C'est le film du désespoir.
Ils l'ont fait dans la douleur.
Une histoire de santé mentale du réalisateur.
Oui, le réalisateur Anno Hidaki, c'est celui qui a réalisé la deuxième partie du film, le deuxième moyen-métrage, qui est allé jusqu'à faire semi une tentative de au moins le considérer par après.
Ah ouais?
Pas des gouttes d'eau, genre.
Ouais. En réponse justement aux critiques en lien avec la fin de la série.
Oui, Victor?
Oui, bonjour, excusez-moi, c'est Victor en régie. Je me permets d'intervenir parce que je porte actuellement un t-shirt The End of Evangelion. Je voulais juste ajouter un mot sur The End of Evangelion, qui est aussi un film que je considère être un putain de chef-d'œuvre. Il y a quand même aussi tout un rapport à la question de quand tu crées une œuvre qui te touche au plus profond de ton cœur et que soudainement les gens piétinent ce que t'as créé du plus profond de ton cœur.
Oui.
Cette idée de, à un moment, tu créer une œuvre, c'est mettre son âme sur la table.
Oui.
Et quand tu offres ton âme aux gens et que les gens viennent la piétiner, comment tu réagis? Et c'est un peu ce que va faire justement Hideaki Anno dans le film, en littéralement filmant des gens qui étaient venus à l'avant-première des derniers épisodes et en les mettant dans le film et en disant « Vous êtes des merdes, je vous hais, regardez ce que vous êtes ». Je crois qu'on n'a jamais vu un créateur de long-métrage, de série d'animation, autant insulter son public et en même temps en tirer une œuvre désespérée sur la fin de l'humanité et sur... c'est quand même un film qui dit les mecs, vous êtes des sales weebs et vous baiserez jamais de meuf, hein.
Oh, yo,
c'est quand même ça.
La première séquence. Oh mon
Dieu. Oh, c'est terrible.
Le malaise. Là, ça suit.
Le malaise.
Pardon. Excusez-moi. Pardon.
Bon, sur ça, on va passer à un autre film. Merci pour nous avoir partagé ce film-là. Elias.
Eh ben moi, je suis venu présenter le film qui est à mes yeux le meilleur de la filmographie de Martin Scorsese. Donc le film Casino, donc qui est sorti en 1995, qui raconte l'histoire donc de Sames Rochefort Stein et de Nicky Santoro, joués respectivement par De Niro et Joe Pesci. Ils vont prendre le contrôle d'un casino avec dans les années 80 à Las Vegas, et ça va s'en suivre en fait plein de péripéties, parce qu'évidemment ils sont affiliés à la mafia, il y a plein de conséquences qui arrivent. Nicky Santoro, joué par Joe Pesci, est un espèce de sociopathe en puissance.
Ouais, il lui donne sa meilleure imitation d'un gremlin sous crack.
Et pour moi, je considère ce film comme meilleur parce que Les Affranchis est un film extrêmement surcoté, et on trouve beaucoup de codes des Affranchis dans Casino, mais beaucoup plus abouti parce que le film est sorti en 95, donc 4 ans après les Affranchis. Mmh. Et il y a aussi la magnifique Sharon Stone, qui pour moi sort sa meilleure performance.
Fantastique.
Elle est exceptionnelle dans ce rôle. Et ça te montre simplement qu'on peut faire du cinéma sans forcément utiliser Ray Liotta comme bouffon au sein de son film pendant plus de 2 heures.
J'adore comment il met en image un peu le côté luxe, l'opulence au début, il te place dans un contexte et après tu rentres tout de suite dans la violence et tu dis ok, quand tu vois les coulisses du film.
D'ailleurs, c'est un de ses seuls films, et je sais peut-être que je vais déranger, je l'ai vu en VF. Parce que.
Mais les VF des années 90 sont très bonnes.
Mais
hein.
Oui, parce qu'il y a la magnifique voix de De Niro historique, qui est celle de Jacques Frantz, qui joue d'ailleurs Sully dans Monstres et compagnie, qui a une voix, une masse incroyable, qui joue De Niro, et il y a cette espèce de voix off qui accompagne le film où en fait il décrit les actions. Il y a une des scènes qui est géniale dans le film où il décrit en fait la sécurité du casino, qui contrôle le casino, les portiers en fait surveillent les croupiers sont surveillés par le directeur de salle, surveillés. Et j'ai l'impression aussi que c'est un film qu'on parle pas souvent dans la filmographie de Scorsese. On va généralement, et ça je l'ai vérifié avec des amis, tu leur demandes un film de Scorsese, ils te citeront 3 films: Taxi Driver, Les Affranchis, le Loup de Wall Street.
Il y a que les rappeurs des années 90 qui parlaient géniaux. Beaucoup de casino.
Ouais, c'est des films géniaux, mais je trouve simplement que Les Affranchis, c'est bon, mais c'est surestimé. Ça mérite pas.
Mais
c'est surcoté.
Mais non, mais ça va encore le bordel dans les commentaires. Moi, j'en
parce que je vais vous expliquer simplement. J'aime pas Ray Liotta, je trouve qu'il surjoue pendant 2h30 de film, mais il y a une espèce de pensée dominante qui dit ça, c'est le meilleur film de gangster qui n'a jamais été fait dans la galaxie. Non, parce que Le Parrain existe, par exemple. Mais par exemple, ouais, qu'est-ce que t'en penses, Les Affranchis ou Casino, tu vois?
Instinctivement, je dirais Les Affranchis, mais sinon Casino, je vais me le refaire. Tu m'as donné envie.
Et alors, on va passer à toi, Maya. Tu vas nous parler d'un film de mon enfance qui est Pollux et le Chat Bleu.
Donc, c'est un film d'animation stop-motion des années 70, français. Et j'ai découvert ce film avec une cassette que ma mère a trouvée dans un marché aux puces. Donc, c'est l'histoire de Pollux, qui est un chien. Elle vit dans le Bois Joli, qui est un pays magique avec plein d'animaux. Et tu penserais vraiment que c'est un film juste comme, ah, ok, c'est juste, c'est pour enfants. Mais il y a du travail dedans. Et c'est du stop motion, mais un peu limité, mettons. Tu vois qu'ils avaient pas autant de budget.
Frappe par frappe.
Ouais, mais ça a l'air des années 70.
Mais déjà, rien que pour le storytelling, ça donne envie.
Ouais.
En plus, c'est une série aussi.
Ouais, c'était une série.
Avec un chien, Pollux, là, ça me dit quelque chose, ouais.
En fait, ça s'appelait Le Manège Enchanté à la base.
Ouais.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais vu un film, je me rappelle, un long métrage avec Le Manège Enchanté.
En 3D?
Mais... Ouais, en 3D.
Non. Justement, le stop motion, à la base, c'était quelque chose qui pouvait être utilisé pour les effets spéciaux. On a cette idée que c'est cheapo, c'est parce que c'est tellement de travail que souvent ils peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils veulent faire. Par exemple, des choses comme Coraline. Le film a été fait par 30 personnes, c'est minuscule pour une...
30 personnes.
Oui, pour une team
pour
d'animation.
Un film,
pour une durée de combien de temps?
Une heure et demie, je dirais.
1h28, 1h18, je pense.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment long quand même.
Non, ouais.
Et la musique, 100 personnes.
Ah ouais.
Ils ont mis plus de budget et la musique est magnifique.
La musique est super belle.
Ouais,
j'ai vu comme une vingtaine de minutes.
Ouais, j'ai le vinyle. L'histoire, c'est Pollux découvre qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans l'usine bleue. Un chat bleu apparaît et il décide d'être ami avec tout le monde, mais Pollux sait que c'est
pas gentil.
C'est pas gentil.
Il est fourbe le chat.
Il fait partie des méchants. Il y a lui, le chat bleu, et la voix bleue. La voix bleue, je l'adore. La méchante n'est qu'une voix. Leur but, c'est de rendre tout bleu. Et c'est tellement un but de dessin animé.
Ouais.
Mais tu y crois parce que les acteurs se donnent vraiment, puis la plupart c'est leur seul rôle qu'ils ont jamais fait avec un œil adulte faire non mais cette musique là c'est pas une musique d'enfant toute cute. Ils ont du budget, ils ont du travail et surtout les dialogues. Je suis une personne à dialogue, j'adore les dialogues.
En fait, c'est l'accent anglais du chien.
Chaque personnage a un accent.
Ma génération post 2000, je connaissais le Pollux par Le Manège Enchanté, mais il y avait je sais qu'ils ont refait les films enfin les dessins animés en 3D,
non.
Je trouvais un peu flippant quand même à l'époque, je trouve.
Non, ils sont brûlé. Les 3D de l'an 2000.
Ouais,
c'est
les 3D de l'an 2000, il y en a qui ont très mal vieilli.
Chicken Little.
Sur ce, c'était un bon débat. Mais c'est la fin de l'émission, malheureusement. Donc, je vous remercie d'être venu participer, de nous avoir parlé de vos films. Je m'engage à regarder une partie des films dont vous avez parlé.
Tu as le droit de regarder les 15 premières minutes et nous envoyer un message après.
D'accord, ça me va. Je ferai une story.
Pour que les gens devinent dans les commentaires quel film tu regarderas.
Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé l'émission et je repasse le micro à Victor.
Thank you.
il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si jamais j'en vois une qui m'intéresse et où j'ai quelque chose à répondre, eh ben je la sélectionne et elle passe dans l'émission. Suivez-moi sur Instagram pour pouvoir poser toutes vos questions quand je mets les stories avant de tourner. Et aujourd'hui, la question nous vient de Flux182 qui dit « Un remake de La Petite Boutique des Horreurs par Joe Dante, ça part bien là ?» Ouais, mais pas sûr que ce soit rassurant. Petit historique, est-ce que vous connaissez La Petite Boutique des Horreurs ? Si vous avez répondu non à cette question, oh boy, la chance que vous avez, je rêverais de pouvoir revoir La Petite Boutique des Horreurs pour la première fois. La Petite Boutique des Horreurs, c'est à la base un film de Roger Corman sorti en 1960 et qui raconte l'histoire d'un fleuriste qui va récupérer une petite plante étrangère. Problème, la plante est en fait alien, va grossir jusqu'à devenir géante et manger des gens. Et le film est... sympa. C'est du Roger Corman de l'époque, c'est-à-dire que c'est un film qui est tourné en quatrième vitesse avec des restes de pellicules tombés du camion. C'est sous-produit, hein, le film a coûté à peine $30,000, mais c'est culte. Et il y a Jack Nicholson à l'intérieur qui a un de ses premiers rôles. Par contre, il y a eu une adaptation en comédie musicale à Broadway qui ensuite elle-même a été réadaptée en film en 1986. Et ce film-là, le Little Shop of Horror de 1986... c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est réalisé par Frank Oz, réalisateur mais aussi marionnettiste, proche des Muppets, de Sesame Street. Il y a Nick Moranis au casting, il y a Helen Green. C'est visuellement absolument bluffant, les chansons sont géniales. Je suis extrêmement fan de ce long-métrage. Si vous n'avez jamais vu la comédie musicale Little Shop of Horror, c'est un des monuments des années 80 que vous devez rattraper, mais de toute urgence. Et là, ils viennent d'annoncer un remake du tout premier. Et pas avec n'importe qui à la barre. Puisque le film sera réalisé par Joe Dante, qui est le réalisateur de Gremlins, qui est le réalisateur de Small Soldiers, le scénario sera fait par Charles S. Haas, qui a été entre autres scénariste de Gremlins 2, de Panic sur Florida Beach, et ce sera produit par le réalisateur du tout premier, à savoir Roger Corman. Dit comme ça, c'est un miracle. C'est une team de rêve pour un projet incroyable, le reboot d'un film culte. Ouais, mais... Non. Déjà parce que Joe Dante, il est plus que l'ombre de lui-même. Ça fait 10 ans qu'il a pas fait de film, et son film précédent, c'était Burying the X, c'était un tout petit truc qui a eu vraiment une très très mauvaise presse. Je crois que le dernier film de Joe Dante que j'ai aimé, c'était Small Soldiers, qui date de 98, ça commence à remonter. Ah si, il avait fait Les Looney Tunes passent à l'action en 2003. Ouais, mais déjà, c'était vachement plus petit, quoi. Et ça a 20 ans, putain, ça fait 20 ans. Ensuite, le scénariste de Gremlins 2, Charles S. Haas, il a pas écrit de scénario depuis 30 ans. Ouais, son dernier scénario, c'était Panic sur Florida Beach en 93. Ça commence à remonter. Puis même le scénario de Gremlins 2, il l'avait coécrit en duo avec Chris Columbus. Là, il est tout seul à la barre. Ouais, c'est inquiétant. Mais le plus inquiétant, c'est annoncer Roger Corman comme producteur. Roger Corman, il a 97 ans. Je sais pas quoi ajouter de plus derrière ça. Le bonhomme, il a rien produit depuis 2017, et à l'époque, c'était déjà le téléfilm Course à la mort 2050, qu'il a produit seulement parce qu'il avait produit l'original des années 70, Course à la mort de l'an 2000. Bref, c'est vraiment un prête-nom. C'est un effet d'annonce sur un bonhomme que j'adore, mais qui est quand même plus que vieillissant. Et il y a un autre producteur affilié au projet, qui est Brad Crevoy, qui a bossé avec Roger Corman dans les années 80. Mais lui, ce type-là, il est spécialisé depuis 20 ans dans les... téléfilm romantique de Noël. Donc à ta question, ça part bien là ? Ouais, j'ai plutôt l'impression que ça part pas bien du tout là. Des personnes en fin de carrière, fatiguées et qui se réunissent là autour d'un projet opportuniste avec des producteurs soit plus du tout mentalement disponibles, soit au contraire profondément cyniques. Oui, je peux pas m'empêcher de me dire que le projet part pas bien. Faut pas avoir de préjugés, c'est sûr, mais on verra. On verra. C'est-à-dire que Joe Dante, il a 2 ans de moins que George Miller, qui va nous sortir cette année Furiosa et qui va révolutionner le cinéma à lui tout seul. Ouais, je suis très très sûr de mon coup sur Furiosa, j'ai tellement hâte de voir ce truc. Mais en l'état, si on parle de Little Shop of Horror, ouais vous voyez la comédie musicale des années 80. Je pense que c'est le truc le plus important à faire.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle d'un film. Non, c'est vous qui parlez d'un long métrage. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Vous pouvez parler d'un film récent ou non. Vous parlez de ce que vous voulez. Vous synthétisez tout ça dans un audio de 3 minutes que vous m'envoyez par mail et vous aurez une chance de passer dans l'émission. Donc allez-y, faites-le. Lâchez-vous. Et aujourd'hui, le souci, c'est que j'avais pas de film précis en tête. C'est-à-dire que j'ai vu des trucs, mais soit c'est des cartouches que je me garde pour les mercredis à venir, soit c'est des films qui ont même pas encore de date de sortie en France. Genre j'ai vu le nouveau Rose Glass, Love Lies Bleeding, c'était super. Ou j'ai vu le film d'horreur Stop Motion, c'était moins super. Mais du coup je me suis dit, j'en parle dans l'émission régulièrement, je vais vous faire un petit point sur cette saga que j'aime tant, et on va parler de Godzilla.
Godzilla-kara.
Alors, pour les gens qui suivent pas, je suis actuellement en visionnage, revisionnage de tous les films Godzilla sortis au Japon depuis les années 50. Il y en a 33 et j'en ai vu pour l'instant 25. J'essaye de tout finir avant que sorte le nouveau Godzilla américain bientôt qui a l'air formidable. Et il y a eu plusieurs périodes dans le Godzilla japonais et j'avais déjà abordé la première qui a duré de 54 à 75, qui était la Showa era et qui a donné autant de chefs-d'œuvre que de bouse infâme. Mes préférés, outre le premier, c'était Mothra vs Godzilla en 64, c'était All Monsters Attack en 68, mais surtout Godzilla vs Edora en 71. C'est génial, ce film avait beaucoup trop d'années d'avance sur son temps. Et en 84, ils ont fait un reboot. On garde que l'histoire du tout premier film Godzilla et on repart sur ces bases-là pour développer une nouvelle histoire, un nouveau développement, de nouveaux personnages, etc., etc. Cette période va durer de 84 à 95, elle s'appelle la Heisei Era et je viens de la terminer. Et là, je vais attaquer du coup la Millennium Era qui, elle, a duré de 99 à 2004. J'ai pas encore vu de film de cette période-là. Mais du coup, je me suis dit, faisons un petit point sur la Heisei Era. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des bons films que j'ai à vous conseiller? Et oh que oui! Oh que oui, il y en a! La petite difficulté pour rentrer dedans entre la première période et la deuxième, c'est que dans la première, les films étaient interconnectés seulement par les créatures. C'est-à-dire qu'à chaque film, c'était de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, ça se suivait pas particulièrement. Et dans la deuxième, bah, t'as des fils rouges cette fois-ci. T'as notamment le personnage de Mickey, qui est une gamine télépathe, qui va revenir à chaque film pour guider un peu le truc. T'es donc obligé de voir tous les films pour suivre un peu. Et forcément, bah, il y en a des moins bien que d'autres. Genre Godzilla versus Space Godzilla. Alors, c'est très joli, mais c'est surtout du fanservice très chiant. Par contre, dans cette période, il y en a trois. On va aller de manière crescendo ces trois films que je trouve absolument géniaux. Le premier, c'est The Return of Godzilla, qui est sorti en 1984, qui est le premier film de cette période qui va poser les nouvelles bases, et direct, ça frappe très 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 fort. Déjà, ça renoue avec les origines politiques du premier, la menace nucléaire, etc. Mais ça va laisser de côté un petit peu toute la partie goofy de la période précédente pour essayer de proposer quelque chose de beaucoup plus horrifique. Dans les premières scènes, t'as une attaque de bateau, mais on est vraiment dans le body horror cradingue. Et c'est ça qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'on te dit, ok, on va retourner à une certaine noirceur et une certaine brutalité. C'est un vrai retour au réel après une parenthèse enchantée un peu gentillette. Si jamais vous voulez reprendre la saga après avoir vu le premier, c'est pas mal de démarrer par là. Ensuite, il y a Godzilla versus King Ghidorah, qui est sorti en 91. Et là, c'est un autre délire. Parce que le but, c'est à la fois de rendre un hommage au côté loufoque de la période précédente, mais aussi de s'inspirer de tout un cinéma américain. C'est-à-dire de Retour vers le futur, de Terminator. Il y a même une référence directe à Steven Spielberg dans le film. Il y a du voyage dans le temps, il y a des créatures qui meurent, mais qui reviennent en version méca. Et politiquement, je pense que c'est un des plus violents, toutes périodes confondues. À part le premier, je crois qu'on a rarement vu un film Godzilla autant frontalement porté sur l'anti-américanisme et les conséquences de son comportement pendant la guerre. Vraiment, c'est ultra vénère, ça a fait polémique à l'époque. C'est super chaud ce qu'il y a dans ce film. Le découvrir sans contexte, ça peut être un petit peu bizarre parce que c'est à la fois très loufoque et très sérieux en même temps, mais c'est un des plus beaux moments de cette période. Mais le meilleur, c'est le grand final. C'est Godzilla versus Destroya qui est sorti en 95, que je considère être vraiment, vraiment un film extraordinaire. C'est à la fois la direction artistique la plus expérimentale, la plus sanglante, la plus moderne que j'ai jamais vue dans un Godzilla, et en même temps, ça s'évertue continuellement à rendre hommage au tout premier film Godzilla et à moderniser son propos sur la menace nucléaire. Et en même temps, ça va puiser dans l'imagerie de Aliens, il y a des scènes de tension absolument dingues, j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré devant un film Godzilla. C'est pas juste un grand film Godzilla, c'est un grand blockbuster moderne, puissant et touchant. Et ça va mêler autant les visions d'apocalypse que les scènes d'action ultra soutenues, j'étais conquis. Voilà, j'ai terminé cette période en étant ultra heureux. Puis j'ai enchaîné en regardant la version américaine de Roland Emmerich, que j'avais jamais vue. Et là, j'avais envie de mourir. Voilà, c'était mon petit best-of des Godzilla japonais pour terminer cette émission. Voyez-en, il y a vraiment des trucs incroyables à l'intérieur. Series Kaukutsu. Godzilla tai Destroyer. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien chez vous, où vous êtes, que vos proches vont bien et que vous êtes heureux et heureuses. L'émission démarre sur des chapeaux de roue. J'espère que le changement d'heure, notamment de la version vidéo, perturbera pas trop les gens. On verra ça dans l'émission de mercredi, quand l'émission sortira à midi, je vous le rappelle. Du coup, on se retrouve mercredi. En attendant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.